Vous écoutez les programmes du studio Kalangou. Messieurs, mesdames, bonjour, c'est l'heure du journal. Rencontre ce matin entre le président de la République et le corps diplomatique accrédité au Niger. Objectif, solliciter l'accompagnement des partenaires pour le rapatriement des déplacés de la région de Difa. Le quartier Bassora de Niamey dans le 4e arrondissement devient inaccessible pendant la saison de pluie. Les habitants appellent les autorités pour des solutions urgentes et pérennes. Le taux de scolarisation de la jeune fille en baisse ces deux dernières années dans la commune rurale d'Abalak. À suivre les causes en partie magazine de ce journal avec le responsable de la SCOFI. Hawa Momana au micro. Le président nigérien a rencontré ce matin à Niamey les corps diplomatiques accrédités au Niger. Il s'agit pour Mohamed Bazoum de leur expliquer les enjeux de l'opération de rapatriement des déplacés de la région de Difa, engagée par l'État, et solliciter l'accompagnement de ses partenaires pour relever le défi. Un extrait de l'intervention du président Mohamed Bazoum.
C'est une opération qui comporte de grands enjeux pour l'avenir de cette région. Nous allons faire en sorte que plus de 200 000 personnes qui vivent là dans des cadres qui ne sont pas appropriés, qui ne leur appartiennent pas, qui ne présagent d'aucune vue pour eux, pour demain, se déplacent pour revenir dans des cadres qui leur sont propres, qui sont ceux de leur vie, qui sont totalement authentiques, où ces personnes-là peuvent vivre normalement comme tous les autres Nigériens. Nous voulons donc que vous nous accompagniez, que vous compreniez les enjeux de cette situation et que vraiment tous nos partenaires soient avec nous à la hauteur de ce défi que nous allons relever et que nous pouvons relever encore plus facilement si nous sommes ensemble.
Des propos recueillis par Assoumana Chinna. Avec les premières pluies tombées sur la capitale Niamey, déjà certaines voies du quartier Bassora sont impraticables. En dehors de l'impraticabilité des routes, les habitants de ce quartier craignent aussi des inondations. Ils appellent les autorités municipales à leur trouver des solutions avant l'installation effective de la saison pluvieuse. On les écoute au micro de Moussa Hassan.
Si la saison s'installe, le quartier est invivable. En plus des rues, toutes les maisons seront remplies d'eau. C'est nous qui les sauvons souvent. Il faut que le gouvernement nous aide, car nous n'avons pas les moyens de faire face à toutes ces rues inondées.
Il n'y a que des mares devant nos maisons, et d'ici peu, ça serait pire que l'année passée, surtout si la saison s'installe, car les rues sont endommagées.
Les routes sont endommagées. Le transport Wadata-Bassora coûte 500 francs sur la ligne, les Faba-Faba 400 francs. Même pour la compagnie de garde nationale, il doit y avoir une voie latéritique. Sinon, en cas d'intervention, ils auront du mal à atteindre le goudron.
Il n'y a plus de taxi pour aller à Talladie ou à Wadata. L'eau a déjà occupé toutes les rues. Même en cas de baptême ou de mariage, les véhiculés n'ont pas accès au quartier.
94 kg de cannabis dont la valeur est estimée à 25 millions de francs CFA ont été saisis le 16 juin à Niamey par l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants et présenté ce matin à la presse. Lors de cette saisie, 4 individus, un Nigérien et 3 étrangers ont été interpellés. Des précisions avec le commissaire principal, Dr Moutari Habou, le porte-parole de la police nigérienne.
À partir de certains pays voisins, les trafiquants font rentrer le cannabis au Niger où un des membres du réseau basé à Niamey le récupère, le sécurise en attendant de le faire remonter au Mali dans des camions de transport de marchandises sous bonne garde d'autres membres du réseau venus de Gao spécialement pour la circonstance. Au cours de l'opération, il a été saisi un véhicule, une moto et une somme d'argent de 517 000 francs CFA, dont 420 000 sont en faux billets. Également, plusieurs téléphones portables ont été saisis. La valeur marchande de la drogue, estimée à environ 25 millions de francs CFA. C'est l'occasion pour l'Office de lancer un appel à la population pour plus de collaboration dans la lutte contre la drogue.
Propos recueillis par nos confrères de la télévision Labari. Le comité international de la Croix-Rouge CICR forme depuis hier à Agadez pour une semaine les responsables des forces de défense et de sécurité en commandement dans les zones militaires d'Agadez, d'Irkou et de Tawa sur le droit international humanitaire DIH. El Hadji Moussa, chef bureau sous délégation CICR zone Agadez, Tawa, est au micro d'Anissé Karim.
Il s'agit d'outiller des responsables des forces de défense et de sécurité en droit international humanitaire et en droit international des droits de l'homme pour qu'ils respectent ces instruments juridiques sur le terrain des combats. Vous savez que le Niger est aujourd'hui dans des conflits au niveau de la région de Diffa surtout et de la région de Tillabéri et une partie de la région du Nord Tawa. Et il est donc important pour les forces de défense et de sécurité d'avoir ces instruments juridiques pour faire leurs opérations dans le respect des instruments internationaux que le Niger a signés. Parallèlement aussi, on va parler du mandat du CICR avec les stagiaires, des activités du CICR pour se faire connaissance, puisque vous savez que relativement à notre mandat, nous sommes sur des terrains où il y a des hostilités et il est bien que les forces de défense et de sécurité connaissent le travail qu'on fait pour nous accepter. C'est des responsables qui, en réalité, encadrent déjà des troupes et prennent des décisions. Donc, une fois vraiment outillés sur le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, ils vont certainement les mettre en pratique, mais aussi le communiquer auprès de leurs hommes de rang.
À Gossi, au nord Mali, village situé à 160 km de Gao, des militaires français de l'opération Barkhane ont été victimes d'une attaque attribuée à de présumés djihadistes. On déplore des blessés dans le rang des Français et des civils maliens, rapporte une dépêche en ligne de Radio France Internationale ce matin. Les assaillants qui ont fait exploser leur pick-up bourré d'explosifs contre le véhicule des militaires de la force Barkhane sont morts, précise la dépêche. Comment les journalistes ont couvert les élections générales 2020-2021 au Niger? C'est pour évaluer le travail des journalistes et les formations reçues à la veille des échéances électorales que la Maison de la Presse a initié des tournées à l'intérieur du pays auprès des confrères. Le président du conseil d'administration de la Maison de la Presse, Ibrahim Harouna, explique au micro de Mohamed Mamman.
Il s'agit, après l'organisation de ces élections, de venir s'enquérir des avis de tous les acteurs pour savoir comment les journalistes ont pu jouer leur rôle, quelle a été la contribution des journalistes, quelles ont été les reproches faites aux journalistes et aux médias, et qu'est-ce que nous, en tant que Maison de la Presse, nous devrons faire pour améliorer les choses et permettre aux populations d'avoir accès à une information libre, équitable et transparente. Nous avons ciblé plusieurs acteurs pour évaluer cette situation. D'abord, les autorités administratives comme le gouverneur de la région, le maire central, le président du conseil régional, mais aussi des acteurs de la société civile et aussi eux-mêmes, les journalistes. Nous allons échanger avec eux pour savoir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre de leur travail. Ça peut nous permettre d'avoir une idée globale de ce qui se passe au niveau de la région de Maradi en matière de traitement et de gestion des libertés de la presse.
Bientôt, les pensions des retraités nigériens seront mensuels et non trimestriels selon les autorités. Cette décision est l'aboutissement d'une réforme engagée pour soulager les pensionnés. À Zendev, certains retraités sont sceptiques sur cette réforme pendant que d'autres s'inquiètent d'une irrégularité dans les paiements. Quelques réactions recueillies à Zendev par Mustapha Momansani.
Ce sera un changement, mais pour beaucoup, c'est un déséquilibre. Parce qu'ils sont habitués à avoir le tout pour le trimestre-là. Ils s'organisent en conséquence. Mais maintenant, si on te donne mensuellement, on risque vraiment de ne pas pouvoir finir le mois avec ce qu'on va gagner. Maintenant, l'autre partie, je souhaiterais que le président de la République veille. Il ne faut pas qu'on dise un mois va arriver, on va trouver qu'il n'y a pas d'argent. Mais si on peut payer les gens à temps, au moment opportun, moi, je pense que c'est tout à fait normal.
C'est une très bonne chose si ça va marcher. Parce que vous devez retenir que les retraités représentent une famille des gens les plus en difficulté. À certains âges, 70 ans, 75 ans, tu n'as pas le temps d'aller vraiment te faire bousculer ou te faire fracturer. Si on arrive à le faire, mais que ce soit très structuré, si c'est mensualisé, c'est la meilleure des choses. Quand tu étais jeune, en forme, tu percevais par mois. Mais pourquoi pas quand tu es à la retraite, au moment où tu dois te reposer. Donc ça veut dire que l'État veut contribuer à faire reposer les gens.
À l'occasion de la sortie de son livre « Des pays au crépuscule, le moment de l'occupation coloniale », l'historienne française Camille Lefebvre nous présente son œuvre, une œuvre ancrée au cœur du Sahara à Agadez et à Zender. Elle parle ici de comment a débuté la colonisation dans ces deux parties du Niger. Elle est au micro de Talata Abdou Bahar.
C'est un livre qui cherche à reconstituer comment a commencé la colonisation, comment s'est construit la domination coloniale, en cherchant tous les points de vue qui étaient alors en présence. Ça veut dire que j'ai analysé aussi bien des archives coloniales, évidemment, notamment celles qui sont aux Archives nationales à Niamey, mais j'ai aussi cherché à retrouver des voix africaines qui permettaient et des points de vue qui viennent d'ici pour comprendre ce qui s'était passé. Donc j'ai utilisé des documents en Haoussa, j'ai utilisé des documents en Kanuri et aussi des documents en arabe, des manuscrits, des chansons, des récits épiques en Haoussa notamment et en Kanuri qui racontaient l'arrivée des militaires français mais du point de vue des sociétés de Zinder et d'Agadez. Je voulais regarder vraiment concrètement au jour le jour comment ça s'était passé. Parce que pour vous donner une idée, le nombre de militaires français qui arrivent au moment de la colonisation au Niger, c'est environ 80 militaires, 500 tirailleurs sénégalais pour un territoire qui fait deux fois la France.
Bonjour Fanta, tu sais que tu peux facilement écouter et réécouter les actualités en appelant gratuitement le 325 avec le service d'Airtel.
Mais c'est génial, partout au Niger et uniquement si j'ai une puce Airtel.
Exactement, il te suffit de composer le 325 sur ton téléphone et tu peux écouter, mais également réécouter à tout moment des journaux, magazines, des messages sur la santé et sur l'hygiène.
Super, c'est vraiment intéressant.
Et ce n'est pas tout, tu peux aussi sélectionner la langue de ton choix et suivre les instructions sur le 325.
Suivez les actualités, c'est sur le 325 avec Airtel Niger.
Partie magazine de ce journal, dans la commune rurale d'Abalak, région de Tawa, le taux de scolarisation de la jeune fille s'est amélioré ces dernières années, souligne la responsable de la SCOFI à l'inspection primaire de Tawa, une situation qui s'expliquerait selon elle par le fait que les autorités locales sont impliquées pour le maintien de la jeune fille à l'école. Cependant, ces deux dernières années, ce taux de scolarisation a régressé d'environ 2% pour des raisons qu'explique Mme Ibrahim Nana, responsable SCOFI d'Abalak, interrogée par notre envoyé spécial Hawa Ousmane.
Actuellement, ici à Abalak, sur la scolarisation de la jeune fille, il y a eu une très grande amélioration sur la scolarisation, le maintien, l'accompagnement et la protection même de la fille à l'école. En tout cas, la fille ici, elle a le soutien des autorités administratives et coutumières et même religieuses. On travaille en bon terrain avec les autorités. Cette année, sur un effectif total de 8789 élèves qui comptent la commune urbaine d'Abalak dans 80 écoles, nous avons 4033 filles, soit un pourcentage de 45,88%. Il y a l'enseignement traditionnel, l'enseignement bilingue, les franco-arabes et le préscolaire, tout ce qui est mêlé.
Si on compare les résultats par rapport à l'année précédente, quel bilan peut-on tirer?
Vraiment, on peut dire que celui de l'année passée dépasse celui de cette année. Pour l'année dernière, l'ensemble, on a 10 161 élèves, parmi eux, 4766 filles, dont 46,90%. Donc cette année, ça a redressé, on a un pourcentage de 45,88%.
Qu'est-ce qui explique ce recul?
C'est dit au fait que les parents se déplacent avec leurs enfants, soit ils partent en migration ou ils partent à la recherche du pâtirage, surtout avec les problèmes de vaccination pour les cheptels. Donc ils se déplacent avec leurs filles et ils ne les ramènent pas à l'école. Et il y a aussi la COVID là, qui a suivi cette année, ça a beaucoup eu un grand impact sur l'école.
Face à cette situation, que faites-vous pour que ces filles restent à l'école?
Il y a une autre méthode qui consiste à récompenser les filles méritantes. Même l'année passée, on a eu à récompenser 20 filles même, avec des vélos, des pagnes. Et l'année passée aussi, il y a eu l'autre projet là, l'asso EPT, qui a récompensé des filles ici même à l'inspection, des filles méritantes. Donc ça permet d'encourager les filles à rester à l'école, surtout aussi les parents. Mais la meilleure arme que nous avons, c'est la sensibilisation.
Et c'est la fin du journal de ce mardi 22 juin 2021. À suivre le forum Femmes et élections, place des femmes dans les conseils communaux et régionaux de Niamey. Présentation Samira Rouafi.